Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast officiel des cahiers du catch. Ici, chaque semaine, on regarde, on résume et on analyse pour vous l'émission phare de la WWE Monday Night Raw. Je suis le Ravaching Ringside et avec moi pour commenter ce Raw du 13 mars 2017, Handsome Raphaël. Comment vas-tu Raphaël?
Ça va très bien, ça va très bien. Me voici de retour parmi vous.
De retour après une longue absence, à force de cavaler à travers le monde. Alors, on est chaud, on est bouillant. On va partir sur la route vers WrestleMania, pardon. Le feu vert s'est lancé. On est parti. On est à Détroit, dans le Michigan, hein, la ville de Michael Moore, RoboCop, tout ça. Au programme de ce soir, on nous annonce la chute de la maison Goldberg. Une superstar doit être licenciée, une superstar se rebiffe et une superstar fait ses débuts dans le show rouge. Kevin Owens va donner une bonne leçon à ses anciens amis et on va enfin savoir à qui appartient le terrain de Monday Night Raw parce qu'il y a un litige au cadastre, tout ça va être expliqué ce soir. Et on démarre le show avec pas moins que Brock Lesnar qui débarque accompagné de Paul Heyman. Donc c'est le classique, Goldberg et Heyman au milieu du ring, et c'est Paul Heyman qui parle, qui nous est... Pardon, Brock Lesnar et Paul Heyman au centre du ring, c'est Paul Heyman qui parle, et qui nous explique que Goldberg va se faire exploser à WrestleMania par ce bon vieux Brock Lesnar, hein. Comme on l'a vu la semaine dernière, Brock Lesnar avait placé un F5 sur Goldberg. Goldberg a eu bien du mal à se relever. Voilà qui prouve que Brock Lesnar, il a toutes ses chances face à Goldberg. Que ce WrestleMania, ça va vraiment signer l'arrêt de mort de ce pauvre Goldberg. Il place une phrase qui ressort tout le temps, c'est Down goes Goldberg. Il y a rien de plus spécifique dans la promo. Qu'est-ce que t'as pensé de ce segment d'entrée? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont frappé, toi?
Non, effectivement, je me suis dit que Lesnar, il fait le voyage pour pas grand-chose. Hein. Bon, c'est sûr que sa présence est très impressionnante, mais enfin, il ne dit rien. Mm-hmm. Je pense qu'il fait des économies en serviette de douche dans les vestiaires, hein, parce que là, il a pas besoin d'aller se laver.
C'est ça, effectivement, c'est un petit passage vite fait, bien fait. Il y a vraiment rien de spécial à retirer. Paul Heyman, il est toujours bon hein, dans son registre d'avocat, là. C'était vraiment très très classique. Alors pour les gens qui débarquent, ça doit être pas mal hein, de regarder un petit peu la situation. Mais sinon, c'est sûr que c'était un peu beaucoup de bruit pour rien. Mais bon, les gens qui étaient sur place devaient être contents de voir Lesnar. Voilà. On va pas s'éterniser là-dessus. La suite, alors c'est un peu le fil rouge de la soirée. Stéphanie McMahon et Mick Foley qui sont au backstage. Stéphanie a décidé de faire la paix avec Mick Foley. Hein. Elle explique que c'est un peu la pression qui l'a fait agir comme une connasse hein, ces dernières semaines. Et puis elle explique à Foley que si lui il est prêt à apprendre, elle est prête à lui enseigner elle les ficelles du métier. Et la première leçon de cet apprentissage, c'est pour ce soir. Et voilà, la mission de Mick Foley, ça va être de virer une superstar, le poids mort de l'émission. Donc il a toute l'émission pour choisir, hein, Foley, et son choix se fera à la fin du show. On reviendra un peu plus tard là-dessus en détail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des filles. Alors on a un match qui oppose Sasha Banks à Dana Brooke. Sasha Banks est accompagnée de Bayley dans ce coin du ring et Dana Brooke c'est Charlotte dans le coin du ring. Alors il y a un match, c'est assez rapide. Dana Brooke elle est assez stiff, hein, elle envoie Sasha Banks voldinguer dans le poteau là, la nuque la première, en attrapant par les cheveux. Ça se termine assez rapidement sur un roll-up. Sasha gagne. Et là, c'en est trop pour Charlotte qui monte sur le ring et qui décide de se débarrasser de Dana Brooke. Elle explique t'es vraiment une honte. Voilà, c'est fini, tu mérites pas de traîner avec moi. Et là-dessus, Dana s'énerve et elle attaque à coups de coude Charlotte. Et, elle lui tape dessus méchamment. Charlotte s'enfuit. Et donc Dana, elle est supportée par la foule. Voilà, donc déjà pour ce premier segment, un peu plus tard dans l'émission, on a Nia Jax qui réussit à se faire booker un match par Mick Foley, hein. Elle vient un peu réclamer son dû, et on a un match qui oppose Nia Jax à Bayley. Donc ça démarre avec Bayley qui est assez innovatrice, hein, dans ses attaques face au monstre Nia Jax. Mais Nia, ça se termine par une disqualification de Nia Jax qui frappe sur Bayley dans le coin du ring et qui veut pas arrêter de la frapper dans le coin du ring. Donc ça, comme elle est dans les cordes, ça entraîne une disqualification. Voilà, donc ça c'est pour les filles cette semaine. Qu'est-ce que t'as pensé de tous ces segments chez les filles, mon bon Raph?
Alors, c'était un peu la gimmick de la soirée. Tous les heels ont été, mais complètement cons, je trouve. Commençons par Charlotte. Donc, Charlotte est actuellement bookée dans un triple threat contre Sasha Banks et Bayley en WrestleMania. La définition d'un triple threat à la WWE, c'est que c'est d'office no DQ, hein, on est bien d'accord. Donc, t'as tout intérêt à garder Dana Brooke, même si elle t'énerve, sous le coude. T'es 3 semaines avant le truc, le jour de WrestleMania, tu peux arriver Charlotte et Dana Brooke toutes les deux, sortez les chaises, tabasser tout le monde et gagner. Je comprends pas pourquoi Charlotte, qui est souvent vue et perçue comme assez intelligente, manipulatrice, là, juste avant WrestleMania, au moment où elle en aurait peut-être le plus besoin, elle se débarrasse d'elle. Alors bon, elle va peut-être nous dire qu'elle en a pas besoin, mais c'est très cool. J'ai trouvé ça très cool. Je sais pas ce que t'en as pensé, si t'as pensé à ça, toi.
Ouais, j'ai pas été dans ma réflexion jusque-là. Je trouvais que c'était sorti un peu de nulle part, là, comment dire, cette révolution là de Dana Brooke là qui décide de se débarrasser de Charlotte. Après tout ce qu'elle a mangé, effectivement, c'est compréhensible, mais je comprends pas le timing du fait pourquoi ça sort maintenant. Je sais pas si c'est simplement pour nous faire une petite historiette jusqu'à WrestleMania ou si elle va être inclue dans le match à Mania justement. Voilà, mais bon, après effectivement, c'est vrai que c'est pas très intelligent de la part de Charlotte de se débarrasser de son bras droit avant un triple threat. Ouais, c'est vrai, ça se défend.
Ben oui, et parlons donc d'intelligence. Nia Jax, elle était quand même dans un match dont la stipulation était que si elle battait Bayley, elle rentrait dans cette équation à WrestleMania pour le titre. Donc c'est pareil. Elle pète un plomb, on sait pas trop d'où. Elle tabasse Bayley, elle se fait disqualifier. Donc du coup, ben on reste sur un triple threat. Donc les deux heels féminines là sont passées un peu pour des buses du stratagème. Le seul point positif que j'ai vu de la soirée, c'est qu'on utilise de plus en plus une Sasha Banks qui devient un peu méprisante et moqueuse vis-à-vis de Bayley, et ça sent bien le heel turn post-mania, et ça me dit bien.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait un petit passage aussi dans les coulisses entre Bayley et Sacha où Sacha expliquait à Bayley qu'il fallait pas tenir compte des haters qu'il a détestés sur Internet. Et Bayley avait pas l'air de comprendre de quoi elle parlait. Il me dit quoi, il y a des gens qui m'aiment pas, qui considèrent que je suis pas une vraie championne. Voilà, elle met un peu le doute dans la tête de Bayley et on voit qu'elle commence effectivement à se démarquer. Voilà, on espère qu'on arrivera à ce. Ah, ce heel turn là de Sacha, mais ouais, les matchs étaient courts, hein, en plus, donc c'est pas cette semaine que ça a brillé particulièrement chez les filles, ça c'est sûr. Maintenant, il y a eu quand même une bonne réponse au passage avec Dana Brooke, hein, le public criait Dana. Il faut voir si ça se confirme la semaine prochaine, si elle a vraiment un potentiel de babyface. Ça, j'ai quand même un gros
Oui.
doute. Mais bon, bah pour le coup, c'était relativement efficace dans le show. Maintenant, c'est sûr que ça apporte pas grand-chose au moulin au final. Et puis voilà, bon, c'est un peu dommage de voir Nia Jax s'écarter du triple threat. Mais bon, je sais pas si c'est encore fixé, mais bon, on verra bien. Mais c'est chaud quand même. On va enchaîner avec les Cruiserweight. C'est là que ça a catché cette semaine, hein, c'est chez les Cruiserweight. On a eu TJ Perkins et Tozawa contre The Brian Kendrick et Tony Nese. Donc un match plutôt plutôt joliment exécuté, hein. Ça saute de partout, hein. Il y a des suicide dive, des Hurricane Rana à l'extérieur du ring, et ça se termine sur un cafouillage. TJ Perkins et Tozawa ont du mal à s'entendre, ils se rentrent un peu dedans et on a une victoire des méchants par roll-up de Tony Nese, je crois, sur TJ Perkins. Il lui tire le Lui tire le slip, hein, quand même un peu violemment, hein. Voilà, victoire des méchants sur ce coup-là. Et on a surtout chez les Cruisers les débuts d'Austin Harris. Austin Harris qui affronte Daivari. Donc là aussi un joli match, hein, avec un beau déroulé d'Austin Harris. Donc il gagne le match avec son fameux coup de coude là, tournoyant. Il déroule un peu tout son arsenal. Qu'est-ce que t'as pensé du passage des cruisers, Raphaël?
Eh bien, pour une fois, effectivement, ce fut un des moments forts de ce show qui en manquait. Le tag team était vraiment très bon. J'ai vraiment aimé. Je trouve qu'ils ont quelque chose là avec le japonais. Et TJ Perkins, c'était pas mal aussi. De Brian Kendrick aussi. Enfin, si on leur laisse le temps de briller et de développer des choses. Et là, ils ont vraiment fait du spot cruiserweight, quoi. Ça partait dans tous les sens. Bah, on se rend compte qu'effectivement, ça peut être de très bonne qualité. Bon, Austin Harris, c'est un peu plus anecdotique, hein. Il a fait ses débuts, il a déroulé sa partition, comme tu dis, son adversaire n'a pas été booké comme à son niveau. Donc c'était histoire d'installer le personnage. C'était bien, oui.
Ouais, petite surprise là au niveau des Cruiserweight. Bah, comme effectivement il y avait peu de catch le reste de l'émission, hein, comme on va le voir un peu plus loin. Du coup, c'est eux qui ont fait le spectacle au niveau de l'in-ring. Et du coup, ils ont laissé un peu dérouler, un peu faire des trucs aériens, des enchaînements assez rapides. Tout de suite, là, on était un peu plus dans le catch de Cruiserweight comme on l'aime. Et ça, forcément, c'est déjà beaucoup plus sympa. Austin Harris, quand même, il fonctionne vachement bien. Moi, j'ai regardé un peu 205 Live la semaine dernière. Ça rapporte quelque chose, hein, quand même. Ce Austin Harris, il a quand même un sacré talent au micro et dans le ring. Bon, c'est sûr que son déroulé de catch, il a un petit peu été pillé. C'est plus aussi novateur que quand il faisait des exploits dans le circuit indépendant, mais ça reste quand même très très solide. Effectivement, cette rivalité avec Neville, ça peut être le truc qui va faire sortir les Cruiserweight de l'impasse où ils étaient. En tout cas, pour ce soir, du coup, c'était vraiment une partie intéressante d'Euro. C'est pas toutes les semaines que c'est comme ça.
Oui, on commence à avoir des personnages intéressants, Neville et Harris bien sûr, mais c'est vrai que si on leur laisse faire des bons trucs, on se rend compte que TJ Perkins qui a eu une petite période à la ramasse est pas mauvais du tout, que Brian Kendrick peut être aussi un petit peu cruiserweight même si c'est un vétéran, après on a Gallagher aussi, donc on commence à avoir un petit roster qui s'étoffe.
C'est ça, bah, dès qu'ils font pas du map wrestling là pendant une demi-heure et que ça se termine sur une prise de soumission, c'est tout de suite plus intéressant, hein. De toute façon, il faut que ça bouge, il faut que ça saute dans tous les sens, c'est comme ça qu'on aime les cruiserweight, pas autrement. Et ouais, puis bah là on a quand même les gros noms qui commencent à arriver dans cette division, donc forcément ça devient plus intéressant. Tozawa était très attendu. Austin Harris, c'est pas n'importe qui quand même. Donc voilà, faut qu'ils continuent là-dessus. Et puis voilà, ils arriveront peut-être à faire vraiment quelque chose d'intéressant pour ces cruisers. Bon, 205 Live, c'est pas encore indispensable, hein. Vous pouvez passer votre chemin encore pour l'instant. Mais voilà, mais ça devrait. Pardon?
Pardon, je disais c'était pas si bien que ça le passage avec un Brian Kendrick. J'ai
Ah,
pas trop compris
c'est un peu ledge
le.
quoi. Ouais, en fait, voilà, c'était la leçon de Brian Kendrick à Tozawa à 205 Live. Il devait faire un match, donc Tozawa contre The Brian Kendrick, mais c'était pas contre The Brian Kendrick, c'était contre E Brian Kendrick, un Brian Kendrick au hasard. Bah, ça a été assez rapide, hein. Il s'est fait détruire assez rapidement, le faux Brian Kendrick. C'était rigolo, mais c'est pas ça mérite pas qu'on perde encore une heure à regarder le show, quoi. Mais bon, ça. Ça va venir tout doucement, ça va venir. On voit qu'il lâche pas l'affaire, donc ça c'est plutôt encourageant. Alors, anecdotique, on nous apprend que c'est Eric Legrand qui a gagné le Warrior Award, qui sera décerné, je crois, pendant la cérémonie du Hall of Fame. Donc c'est un footballeur américain qui, après un match, est devenu tétraplégique. Hein, après, on pensait qu'il pourrait plus jamais respirer sans machine, sans respirateur artificiel. Mais au final, il a vaincu un peu ce problème. Et bon, il fait preuve de courage, etc. Donc c'est le gagnant du Warrior Award. Notre gagnant à nous, hein, on sait très bien, c'est François Fillon. Continue à te battre, Coco. Il faut faire preuve de compatibilité. On va passer dans les coulisses. On va s'intéresser au tag team. La belle Charlie Caruso, interview. Le club, enfin anciennement le club Anderson et Gallows, alors qui nous explique de manière très classique hein, qu'ils n'ont pas le respect qu'ils méritent et qu'ils vont prendre les choses en main parce qu'ils comprennent pas pourquoi on les force encore à affronter Cesaro et Sheamus, ils les ont déjà battus, Enzo et Cass, ils les ont déjà battus, donc qu'est-ce que c'est que ces prétendants là, il faut que ça peut pas se passer comme ça, donc ils vont mettre les choses au point ce soir. Et donc bah justement il y a un match hein, ce soir pour déterminer les champions tag team. C'est bah donc justement Enzo Amore et Big Cass contre Sheamus et Cesaro. Donc pour une fois ils ont dû écouter notre ami Hank de la semaine dernière, Cesaro et Sheamus, parce qu'ils s'attaquent tout de suite à Big Cass. Et puis après bah, on passe à Enzo. C'est un match assez classique et en fait ce qui se passe c'est que Anderson et Gallows débarquent, ils cassent la gueule à tout le monde et du coup on est sur un no contest. Donc du coup après dans les coulisses Anderson et Gallows sont là à rigoler mais ils sont interpellés par Mick Foley qui leur dit ça vous fait marrer les gars qu'est-ce que vous êtes cons Anderson et Gallows expliquent bah oui mais le truc c'était que s'il y avait un gagnant bah c'était le first contender pour le championnat tag team là il n'y a pas de gagnant bah il n'y a pas de first contender donc bah voilà nous on est champions puis il n'y a plus personne pour nous affronter. Donc Mick Foley lui explique non ça se passe pas comme ça pas de gagnant et bah du coup vous affronterez les deux équipes et c'est un triple threat pour Mania Anderson et Gallows c'est booké contre Cesaro Sheamus et Enzo et Big Cass un match de plus à la carte de WrestleMania qu'est-ce que tu penses de tout ce segment sur les tag team mon bon Raphaël.
Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont cons eux aussi, qu'est-ce qu'ils sont cons. Enfin, je veux dire, là, c'est quand même du vu et revu, les méchants qui attaquent pour soi-disant neutraliser la concurrence et que finalement ça book un triple threat ou un truc comme ça. Non, ben bah, ouais, Gallows et Anderson, je les compare un peu aux Dalton. Hein. On sait pas s'ils sont plus bêtes que méchants, mais là, ils ont été vraiment très très cons. Et en même temps, ça, en plus, le résultat m'arrange pas trop parce que les triple threat tag team, c'est souvent des règles à la con là où il y a que deux mecs sur le ring en même temps. Donc, bof, assez bof.
Ouais, il faudrait peut-être un. Comment dire, que ce soit un match de l'échelle ou une stipulation comme ça pour que ça devienne vraiment intéressant parce que là, comme ça, sur le papier,
Ouais, on a tout.
c'est sec quoi. Hein. Le plan machiavélique hein, des frères au crâne rasé, là, ça n'a pas fonctionné. C'est que c'est. Ouais, c'est vraiment booking feignant quoi. Hein. Pour Mania, c'est un peu tristouné. C'était chose des affrontements qu'on a déjà vu en plus, donc c'est. Voilà, il n'y a rien d'enthousiasmant. On n'a pas fait monter le club, ils n'ont pas l'air bien beaucoup plus féroces qu'avant, plus prestigieux. C'est vraiment, ouais, on est vraiment sur le booking de feignasse, hein, j'ai envie de dire.
C'est ça. Ouais, Cesaro mérite mieux,
Ouais.
c'est un délire.
C'est ça. Mais alors, bon, ça fonctionne bien en équipe chez Sheamus et Cesaro. Mais moi je préférais presque les voir en solo, je sais pas. Sheamus, ça devrait être un mec qui devrait servir à faire monter les jeunes dans des grosses rivalités comme ça. Cesaro, il devrait être en lice pour la ceinture universelle. Enfin, c'est pas la première fois qu'on dit que c'est super triste au niveau des tag teams, hein, de toute façon. Bah là, ça continue un petit peu. Enzo et Cass, ils ont encore fait une promo, hein, cette semaine, j'en ai pas parlé, mais c'est un truc classique, hein, avec leurs histoires. Rien de spécial, rien de transcendant, ça sort pas de vérité très intéressante, donc c'est pas très pertinent. Bah je sais pas, tu vois qui gagnait toi dans ce match-là, en triple threat, t'as un favori ou... C'est trop tôt pour le dire.
Bah, vu l'affiche, moi je dirais qu'il faut donner une victoire à Sheamus et Cesaro, même si comme toi je préférais les voir en solo. Mais si ces deux mecs-là, avec le talent qu'ils ont, sont réduits à un triple threat tag team qu'ils ne gagnent pas, voilà quoi, ils méritent tellement mieux. Alors ça va peut-être être l'avènement de Enzo Amore et Big Cass parce qu'ils sont populaires donc ça va faire une bonne pop, mais ouais, ça sent le match de pré-show et je suis déçu pour les deux Européens, ouais.
Ouais, parce que c'est pas. C'est sûr que si c'est Enzo et Cass en champion, ça va pas nous donner des matchs fantastiques. Ils ont pas vraiment besoin des ceintures. Cesaro, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, Sheamus et Cesaro, ça peut redonner de la vitalité à la division tag team. Je vois mal quelque chose repartir avec Enzo et Cass ou avec le club. Alors il y a cette rumeur qui court là sur les Hardy qui reviendrait. T'as fait un article hein, sur les cahiers du catch, hein, vous pouvez aller le lire sur ce retour présumé des frères Hardy. Ça pourrait être la surprise d'après Raw. Tu préférerais les voir affronter qui, toi, Soft, Sheamus et Cesaro ou rentre par la petite porte, il se lance en fiotte contre Enzo et Cass.
Ah, ouais, contre Enzo et Cass, ça serait un petit peu chiant, quoique à la limite. On peut imaginer Broken Matt fermer un peu le clapet d'Enzo Amore, mais ouais, non, c'est deux univers qui se ressemblent pas trop. Broken Matt, c'est tellement complètement dingue et complètement sérieux. Enfin, ça se prend complètement au sérieux, son personnage en tout cas. Et par rapport aux autres qui passent leur temps à faire des blagues bah, du zizi, je suis pas sûr que ça fasse un bon mélange.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, enfin, en tout cas, rien n'est signé. On verra ce que ça donne après Mania. Bon, on va rester un peu dans la médiocrité avec le New Day. Le New Day qui a une nouvelle émission qui s'appelle New Day Talks. Et donc, ils reçoivent le Big Show. Alors, le Big Show, il devait avoir son match contre Shaquille O'Neal. Mais ce sera pas le cas. Donc là, on nous annonce que il fera partie de la Battle Royale en mémoire d'André le Géant. On nous parle aussi de son DVD là, parce qu'il fait la voix là dans un ou du moins il fait partie d'un dessin animé là avec les Jetsons. Et il y a Titus O'Neil qui débarque et qui est pas content. Il nous dit ben pourquoi c'est pas la Titus Brand hein, qui fait partie de ce dessin animé. Il s'en prend physiquement au Big Show, hein. Il le pousse. Et du coup, bah, on a un match après Big Show contre Titus. Titus se fait détruire par le Big Show. Qui lui met quand même trois Choc Slam hein, pour le calmer. Ça inspire quelque chose, là, tout ce segment New Day, Big Show, Titus.
Pas vraiment. Ben, le New Day, au moins, je trouve que c'est pas mal fait. Ils sont host de WrestleMania. Donc là, c'est officiel. Hein. Enfin, ils l'ont pas dit officiellement, mais ils en ont plus rien à foutre du catch. Ils sont juste là pour faire la comédie et pour vendre leur chariot à glace. Donc bon, à un moment, on comprenait pas trop leur manque d'ambition. Là, c'est clair, ils s'en foutent. Ils sont juste là pour s'amuser. Après, ouais, c'est un peu bizarre là l'histoire avec Shaquille O'Neal. Tu avais été un des premiers à nous en parler. C'était il y a plusieurs semaines, voire mois. Je sais pas trop pourquoi ça se fait pas. Bon, je dois avouer que j'étais pas forcément très très excité à l'idée de cette rencontre. Du coup, ça fait plusieurs semaines qu'ils faisaient revenir un peu le Big Show présent à Raw fréquemment en vue de ça. Et puis finalement, du coup, bon, ils se retrouvent dans la bataille royale André le Géant et je sais pas trop qui ils vont y mettre en face parce que on aurait pu imaginer les tag teams de Raw mais du coup elles sont toutes occupées. Il va y avoir qui? On sait qu'il y a Mojo Rawley et puis peut-être Dolph Ziggler et Apollo Crews. Ouais.
Ouais,
Plus.
c'est. On sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin, les négociations finalement n'ont pas abouti. Shaquille O'Neal dit que c'est pas de sa faute. Le Big Show dit que Shaquille O'Neal est une grosse feignasse. Voilà, bah écoute, c'est pas non plus un match qu'on va regretter, hein, honnêtement. Le Big Show, encore une fois, dans la Battle Royale. Alors lui, il estime que c'est sûrement son dernier WrestleMania. C'est quand même un peu dommage de partir là-dessus.
Il a dit,
Ben ouais, c'est ce qu'il disait par rapport quand il était encore en train de tweeter sur cet affrontement entre Shaquille O'Neal avec Shaquille O'Neal. Il disait que voilà, lui il s'investit, il a perdu du poids de manière
oui.
phénoménale, il s'est remusclé et que pour lui il considérait qu'effectivement ce serait sûrement son dernier WrestleMania. Parce que lui il considère vraiment ça comme un honneur hein, d'avoir le match contre Shaquille O'Neal. Mais qu'il voyait bien que quand c'était le moment de faire les promos, quand ils se rencontraient, l'autre il était pas très intéressé par ce qui se passait, il n'a pas envie de faire d'efforts. Mais bon, ça c'est la version du Big Show. Après, moi je pense que ça doit être une histoire de gros sous, hein, à mon avis. Hein. Parce que je vois pas trop. Je vois pas trop. Ou alors que vraiment que Shaquille O'Neal il chantait pas de se retrouver sur un ring, je sais pas, il y a peut-être eu un problème d'assurance, mais en tout cas, on n'aura pas la vérité tout de suite, peut-être dans 50 ans, quand ils ouvriront les dossiers secrets.
Oh, mais le Big Show sera mort depuis longtemps, le pauvre.
Ouais, je pense. Voilà, donc, bah, du coup, on se retrouve avec ce truc un peu nul, là, même un peu beaucoup nul, quand même, avec le New Day, là, leur talk show de merde. Ça me fait peur, quand même, pour Mania, hein, le New Day en host, là, ça va être trop lourd, hein. S'ils
Ouais.
sont là avec leur triporteur à essayer de nous vendre des glaces, franchement ça s'annonce pas très très reluisant hein, toute cette histoire. L'année dernière on avait le Rock, c'était quand même un peu plus classe quoi. Surtout quand c'est trois bons catcheurs, donc les mettre comme ça en poste de guignol tout au long du show, je trouve ça plutôt ça me fait peur perso.
Bah, il y a beaucoup de choses hein, qui me font peur, moi, pour ce WrestleMania. Je ne sais pas toi, mais.
On pourrait hein, lancer cette question. Est-ce que c'est pas à peu près la carte la plus pourrie pour Mania qu'ils auraient pu faire? Je pense qu'on en est pas loin quand même. Hein. Même si bon, c'est toujours un peu un moment spécial, hein, hors du temps un peu Mania, hein, mais quand même là,
Ça
comment
fait
dire?
plusieurs années, je trouve que la road est merdique. Hein.
Ah bah l'année dernière c'était déjà bien pourri.
L'année dernière, c'était pourri. Moi, je me souviens de WrestleMania 31, où on avait vraiment été surpris de la qualité. C'est l'année où Rollins cash-in. Il y avait eu le très bon match de Rollins et Orton un peu avant. Il y avait eu Sting qui s'en était pas mal sorti avec Triple H. C'était pas mal. Voilà, par exemple, la feu de Sting Triple H, elle avait été complètement nulle avec les faux Sting. Enfin, des fois les roads sont pourris, les WrestleMania sont bons, mais là.
Ouais, là ça quand même on part de loin hein, parce que
Ouais.
Roman Reigns contre l'Undertaker
Pardon.
ça va être difficile. Parce que le Taker il est pas vraiment en état, du moins de ce qu'on a vu au Royal Rumble. Hein. Alors après, peut-être ça changera d'ici là, mais c'était pas si y a pas y a pas si longtemps hein, le Royal Rumble. Goldberg Lesnar, bon, c'est pas là-dessus que ça va briller au niveau catch. Même si moi je comprends hein, la logique derrière hein, de les mettre en main event et tout ça avec la ceinture. Bon, voilà, c'est pour vraiment que ce soit l'événement de l'année. Qu'est-ce qu'on a? On a Cena et sa femme contre le Miz et sa femme. Ça, je sais pas si ça va être un grand moment non plus. Triple H, Roman Reigns, Seth Rollins, pardon. Si ça se fait, ça va être encore un petit peu difficile parce que Triple H, il est pas au top de la forme.
Ah, c'est pas.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a le tag team là dont on parlait, ce qui n'est pas très enthousiasmant. Je crois
Pas
qu'AJ
trop.
Styles, ça affronte Shane McMahon, donc ça aussi ça va pas être transcendant.
Ouais, Randy Orton, Bray Wyatt.
Randy Orton, Bray Wyatt, moi ça m'excite pas plus que ça. Voilà, bah, ça va. on va encore se retrouver avec un WrestleMania qui sera assez pauvre au niveau catch. Parce que l'année dernière, au final, le seul bon match, c'était celui des filles, en vérité. Donc, voilà, ça se présente pas très bien. C'est trop de vers WrestleMania. Mais bon,
Voilà.
revenons à ce Monday Night Raw.
Et oui.
Est-ce qu'on s'égare? On s'égare, mais c'était un peu le bordel aussi, hein, ce Monday Night Raw, on va pas se le cacher. Alors, de quoi on va parler? On va parler de ce qui se passe autour du titre US. C'est-à-dire que ce soir, on a un match Tag Team Playa. D'un côté, les gentils Sami Zayn et Y2J. Chris Jericho, qui est un gentil maintenant, favori de la foule. Et de l'autre côté, Kevin Owens et Samoa Joe. Donc il y a un speech de Kevin Owens qui est au milieu du ring, qui il explique, donc il a la lumière encore sur lui, hein, avec la salle dans le noir. Il explique qu'il a ramené maintenant le spotlight sur lui, là où ça devait être, que les gens le détestent parce que il a trahi Chris Jericho en lui faisant croire qu'il était son meilleur ami. Mais il explique que Chris Jericho n'était pas de son côté, lui faisait aussi semblant d'être le meilleur ami de Kevin Owens parce qu'il voulait juste s'incruster près de sa ceinture de champion universel. Il explique du coup, comme il a perdu son titre universel à cause de Y2J, hein, parce que c'est un peu une défaite contre Y2J plus qu'une défaite contre Goldberg qui a eu à Fastlane, il va prendre le titre à Mania, le titre US à Mania, à Chris Jericho, pardon, je ne trouve plus mes mots. Pour ce soir, il a une leçon à donner, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de meilleur ami quand on a à ses côtés le Destructeur, The Destroyer, Samoa Joe. Et donc, on a un match avec d'un côté, comme je vous l'ai dit, Sami Zayn et ce bon vieux Y2J, et de l'autre, Samoa Joe et Kevin Owens. Donc c'est quand même une belle affiche, hein. On a à peu près les 4 meilleurs catcheurs du circuit. Donc ça se présente plutôt bien, mais ça se termine assez rapidement. C'est-à-dire que Kevin Owens réussit à placer un super kick à Chris Jericho qui est à l'extérieur du ring et en train d'attendre. Du coup, Sami Zayn se retrouve un peu tout seul. Et puis finalement, ils se mettent à deux sur Sami Zayn. Et là, du coup, disqualification. Il continue à taper sur Sami Zayn. Il y a Y2J qui débarque, qui revient à l'assaut. Il arrive à se débarrasser de Samoa Joe. Il essaye de placer Kevin Owens dans le Lion Tamer. Mais finalement, il se fait prendre dans le coquina clutch par Samoa Joe qui est de retour. Et ensuite, on le place dans une pop-up powerbomb. Et ça se termine sur les méchants qui sont triomphants. Un peu plus tard dans l'émission, on a Y2J dans les coulisses, dans un segment très rigolo. Il était interviewé par alors un intervieweur que je connais pas trop qui s'appelle Mike Rome, je crois, ou quelque chose comme ça. Y2J nous fait tout son arsenal, il part de la liste, gonna get it, et il nous explique surtout que la semaine prochaine, il nous présentera le vrai Kevin Owens dans une édition spéciale du Highlight Reel. Hein, c'est parti pour The Revenge of Jericho. Puis ce qui est marrant, c'est qu'il appelle le commentateur Tom Phillips. L'autre lui dit, mais je suis pas Tom Phillips. Si, 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 mais t'es Tom Phillips. Cherche pas. D'ailleurs, tu sais ce qui se passe quand on oublie son nom, quand on oublie comment on s'appelle, et ben hop, voilà, tu fais la liste et il le met sur sa liste. Donc il garde sa batterie de gimmick, malgré le fait qu'il soit passé face Y2J. Qu'est-ce que t'as pensé de toute cette saga là, autour du titre US, la revanche de Kevin Owens, la revanche de Chris Jericho?
Yeah, who needs the best friend when you have the destroyer? C'est vrai que c'était là pour le coup, le tabassage et la disqualification peut s'entendre parce que le résultat du match n'a aucun enjeu en fait.
C'est ça.
Donc les deux méchants fonctionnent très bien ensemble, je trouve. Ils ont un peu le même gabarit, ils se ressemblent un peu, hein. Et ils ont fait fort. Alors du coup, on imagine peut-être. Ouais, c'est pareil, Owens Jericho a l'air booké. Est-ce qu'on va avoir un Samoa Joe Sami Zayn pour WrestleMania? Mais ça ferait beaucoup de matchs à l'affiche. je pense qu'on sait peut-être pas encore, c'est lié aussi à si Rollins va être en capacité ou non de catcher. En tout cas, c'était un bon moment du show, comme t'as dit, c'était des très bons catcheurs. Le match a pas été très intéressant, mais ça s'est vite fini en tabassage, et je trouve très très bien, effectivement, qu'il n'oublie pas ce qui a fait le face turn de Jericho, c'est-à-dire la gimmick de la liste, et c'était très très drôle, ce petit passage avec Tom Phillips, parce que moi aussi je suis persuadé que ce mec-là c'était Tom Phillips.
Ouais, oui, ça c'est sûr. Il a essayé de donner un autre nom, mais on n'est pas dupes. Mais ouais, non, on était là, c'était vraiment le meilleur meilleur moment de l'émission. C'est toujours Chris Jericho au final, hein, le pilier du truc. Et puis Sami Zayn, Kevin Owens, c'est toujours c'est aussi le comment dire la colonne vertébrale du show. Samoa Joe qui se rajoute à ça. Du coup, quoi, le peu qu'ils ont catché, c'était excellent. Et puis voilà, là il sort un gros speech. Kevin Owens, il a un bon traitement là maintenant du coup.
Oui, c'est vrai, j'ai pas parlé de ça, mais le début était très très bon. Là, ça m'a rappelé un peu l'époque du heel turn de Batista de 2009. Là, il faisait la même chose, il mettait le spotlight sur lui. Et c'est pas mal, ça donne bien.
Ouais. Là, on est bien parti. Ça, bah voilà, ça c'est le match qu'on attend le plus finalement à Mania. Ce Chris Jericho contre Kevin Owens. Et puis voilà, ça fait partie des bons moments du show de ce soir, de cette Road to Mania, toute cette rivalité là autour de Kevin Owens. Bon, il se passe pas grand chose à part qu'on a vraiment une unité entre Samoa Joe et Kevin Owens. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi si ça fait une stable, comme on dit, un clan. Maintenant à voir comment ça va évoluer. On va se laisser porter, je pense, par cette rivalité. Un peu plus tard dans l'émission, ou un peu plus tôt, parce qu'on est complètement dans le désordre, on a ce bon vieux Jinder Mahal qui croise Mick Foley. Lui, il a peur d'être viré, hein, parce qu'on vous rappelle que Mick Foley, il doit virer quelqu'un ce soir. Donc Mick Foley lui explique, si tu veux faire tes preuves, t'as qu'à aller faire tes preuves contre Roman Reigns. Pourquoi pas? Donc du coup, on a un match Roman Reigns contre Jinder Mahal, match qui fait rêver. Ça se termine assez rapidement, même s'il y a une petite période de domination de Jinder. C'est quand même Roman Reigns qui gagne grâce à un Superman Punch. Et puis après le match, comme Roman Reigns il est encore en forme, il appelle le Taker, parce que pendant le match, il y a quand même eu un coup de gong, à un moment donné, qui a permis à Jinder Mahal de reprendre l'avantage. Le coup de gong du Taker, hein, avec les lumières qui ont commencé à vaciller. Donc là, Roman Reigns il s'est retourné un petit peu voir ce qui se passait, puis Jinder Mahal a pu prendre l'avantage, mais bon, c'est quand même Roman Reigns qui a gagné. Donc après ça, Roman Reigns il est là, il appelle le Taker, et à la surprise générale, c'est pas l'Undertaker qui débarque, mais bien Shawn Michaels, le Heartbreak Kid, qui vient donner des conseils en fait à Roman Reigns. Il lui explique que il faut faire gaffe avec l'Undertaker, parce que tu vois là ce soir déjà il y a à peine le gong a retenti que t'étais perturbé. Quand tu vas arriver à Mania, tu vas te faire manger tout cru. Roman Reigns il explique que tu dis ça, mais c'est moi le big dog ici, c'est mon terrain. On dit beaucoup que je devrais m'inquiéter de cet affrontement face au Taker, mais c'est plutôt le Taker qui devrait s'inquiéter de m'affronter moi. Et puis le Taker c'est le mec qui t'a mis à la retraite, donc voilà, toi t'as été mis à la retraite par le Taker et moi je vais mettre le Taker à la retraite. Il s'en va, il jette le micro, il laisse le Heartbreak Kid seul dans le ring. Il arrive à la rampe d'accès et là il se fait percuter par le monstre Strowman qui débarque à 200 à l'heure. Il dévale la rampe et puis il termine entre les barricades et la rampe. Séché en un coup par Strowman. Strowman qui est content, hein. Voilà, ça t'apprendra. Un petit retournement de situation, une amorce de heel turn peut-être pour Roman Reigns. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, Raphaël?
Sur le match, effectivement, c'était un peu pourri, hein. Enfin, comme tu l'as dit, on note qu'en général, quand il y a une musique extérieure qui retentit, ça fait toujours perdre le catcheur sur le ring, mais non, Roman Reigns, il est plus fort que ça quand même. Et puis bon, c'est Jinder Mahal en face, c'est quand même un petit peu une tanche. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait espéré que ça soit lui qui se fasse virer. Même si on a quand même eu des chants Fire Roman et Let's Go Jinder, peut-être la première fois qu'on attendait des soutiens à Jinder Mahal.
C'est ça.
Par contre, la fin, Pas mal, c'est ce genre de moment où tu dis, bon, le fait que Shawn Michaels débarque, totalement inattendu, enfin je sais pas si ça avait été spoilé quelque part, mais
Ah,
d'habitude.
moi j'étais surpris complètement, je m'attendais pas du tout à son arrivée là.
Ouais, d'habitude c'est annoncé la semaine d'avant, Next Week HBK, etc. Donc bonne surprise, bon dialogue, hein. Je trouve que Roman Reigns a dit à peu près ce qu'il avait à dire, parce que sur le fond c'est pas faux. L'Undertaker c'est une légende, mais enfin ces 2-3 dernières années, quand on voit tout ce que Roman Reigns a encaissé dans le buffet là contre tous les plus costauds, bah écoutez,
Ouais.
j'ai trouvé ça un peu condescendant effectivement de la part de Shawn Michaels de lui dire tu vas te faire bouffer tout cru, parce que on aime ou on n'aime pas le Big Dog, mais s'il y en a un qui peut impressionner là dans le roster, le gabarit de l'Undertaker, il fait partie des plus physiques quand même.
Ouais, non, c'est effectivement, hein, si on prend sur le papier, il est plus jeune, il est extrêmement costaud, Roman Reigns, voilà, il a battu les plus forts, le Taker, il est vraiment en fin de carrière, mais bon, on l'a vu au Rumble, il le book très très fort, hein, le Taker, malgré qu'il arrive plus à bouger,
Il est tout court.
donc on est censé croire que le Taker est toujours indestructible, quoi,
C'est vrai.
dans leur logique, hein, mais
Mais
c'est
ouais,
pas si
mais
ça fonctionne à 100%, ça.
oui, bien sûr, c'est l'Undertaker. Mais ça reste assez étrange. Moi, j'ai bien aimé hein, qu'il finisse par se faire tabasser par Strowman, mais on comprend pas trop du coup quelle va être la place du Golgoth dans l'équation, parce qu'on n'est plus qu'à 2-3 semaines de Mania, donc si lui, on le
Ouais.
trouve pas un autre programme annexe. Enfin, ça ferait bizarre qu'il vienne intervenir dans le match de l'Undertaker, quoi.
Ouais. On va s'y attendre, puis il viendra pas, un truc comme ça.
Ouais, bah lui, il faut qu'il soit dans la bataille royale. Mais en tout cas, Roman Reigns, on continue de le dire, hein, mais ces 3 derniers WrestleMania, ses affiches, c'est Brock Lesnar, Triple H et l'Undertaker. Donc il est quand même toujours dans le haut du panier.
Ouais, il n'y a pas eu de dépêche, hein. C'est toujours au top, hein.
Ouais.
Et puis en parallèle, toujours pas de nouvelles de Finn Bálor, donc apparemment il va rester dans le haut de l'affiche dans le futur proche.
Oui, Baylor va arriver, je pense, au lendemain de WrestleMania. Il a été appelé d'ailleurs. C'était à quel moment? Ben, c'était quand Samoa Joe et Owens tabassaient Zayn et Jericho, non? Que le public appelait Baylor.
Ouais, ça aurait été sympa. Ah, ils auraient pu nous booker à la va-vite un Samoa Joe Finn Bálor, comme ça serait sympa. Même si à Sami Zayn, ils peuvent faire un triple threat comme ça serait cool. Mais bon, ne rêvons pas trop. Et Strowman, alors ouais, qu'est-ce qu'il fait là, Strowman, bordel? Est-ce qu'il va être inclus dans le truc à Mania? Parce qu'il y a quand même un méga push aussi de Strowman qui était fait depuis des mois, donc c'est un peu bizarre de le voir comme ça sans programme pour. The biggest stage of them all. Mais bon. Ça, pareil, l'ami on nous le dira. Mais bon, c'était plutôt bien, bien tourné ce soir, hein. C'était pas aussi un des pires moments du show. Et voilà qu'on arrive tout doucement au main event, qui ne sera pas un match, mais bien Mick Foley, Stéphanie, au milieu du ring, pour savoir qui va être viré. Donc ça dure assez longtemps. En gros, Mick Foley explique que la personne qui doit être virée, eh ben c'est Stephanie McMahon. Ça lui est venu comme ça à la fin de l'émission. Il savait pas qui virer. Stéphanie, elle lui dit non, bah tu peux pas me virer. T'es un peu con. Qu'est-ce qui va pas dans ton cerveau? Alors il explique que oui, il chérissait l'amitié qu'il avait avec Stéphanie, mais que il y a pas si longtemps, il lui avait demandé s'il avait quelque chose à voir avec l'intervention de je sais plus qui, je suppose de Samoa Joe, et qu'elle avait dit qu'elle avait rien à voir là-dedans.
C'était Triple H, ça date, hein, c'est pour la prise de titre de Kevin Owens là, quand.
Ah, bah c'est bien ce que je me disais. Donc tout le monde a oublié
Ouais.
de quoi elle parlait.
Oui, je pense.
Et donc il avait dit à l'époque que soit c'était une bonne menteuse, soit c'était une très mauvaise personne. Enfin, que ça ferait d'elle une très mauvaise personne et une bonne menteuse si effectivement elle mentait. Et il dit ce soir, bah, j'en suis certain maintenant, t'es une mauvaise personne et t'es une bonne menteuse. Ça monte en température, hein. Steph, elle dit, bah tu me connais pas, tu vas voir comment que c'est quand je suis méchante. Ça va pas se passer comme ça. Foley dit non, ce soir je ne me tais pas. Mais il y a une musique qui retentit. C'est Triple H qui débarque enfin. il vient pour remettre Mick Foley à sa place. Alors, il explique que hein, il se casse la tête à construire quelque chose, des nouveaux catcheurs, eh ben, c'est précisément pour plus avoir à supporter des has-beens comme Mick Foley. Voilà, il lui explique que maintenant il va rentrer dans le rang, parce que sinon, eh ben, sa fille, qui veut devenir absolument une diva, une superstar à la WWE, ben, ça va être un petit peu difficile pour elle. Et faut savoir que Mick Foley aussi, il a un fils qui travaille à Stanford. Dans les bureaux, donc bah, il ira pointer hein, au Pôle emploi hein, si ce pauvre Mick Foley ne rentre pas dans le rang. Donc il lui dit bah allez hop tu quittes le ring, tu retournes dans les trucs, hein, tu nous laisses faire notre business. Et alors ça se passe, il y a un petit moment où Mick Foley est dans le coin, il commence à fulminer. Comment dire, Stéphanie a repris la parole. Donc là, Triple H, il voit que Mick Foley ne veut pas quitter le ring, hein, qu'il est en train d'avoir des espèces de spasmes. Il s'approche de Mick Foley pour lui dire de sortir. Et là, Mick Foley se retourne et il l'attaque avec Mister Socko. Cette chaussette hein, qui garde toujours dans son pantalon et qui. Il met ça dans la bouche de Triple H, hein, l'ancienne hein, Mandible Claw. Mais il se prend un low blow de Stéphanie. Et bah du coup c'est parti pour un tapassage en règle. Mais là une musique retentit et c'est Seth Rollins qui débarque en boitant avec sa béquille. Il a un petit temps à débarquer jusqu'au ring. Donc là Triple H il est en confiance, il dit bah vas-y viens, hein, on va régler nos comptes. Et alors là Seth Rollins il soulève sa béquille et il la jette nonchalamment. En fait, il n'est plus blessé, il monte sur le ring, il commence à tabasser Triple H, il le fait fuir. Hein, il y a même un joli Malenko Kick hein, qui est placé, on voit qu'il est bondissant, il est remis à 100%. Là-dessus, Triple H se retrouve à l'extérieur du ring. Et qu'est-ce qu'il voit à l'extérieur du ring? Il y a la béquille de Seth Rollins. Allez hop, il prend la béquille, il remonte dans le ring. Il se fait cueillir par Rollins, mais il réussit à en placer un bon coup de béquille. Et alors là, ça commence à. Un dépeçage en règle, des violents coups de béquille dans le genou du pauvre Seth Rollins, qui se retrouve à pleurer sa maman par terre, le genou brisé. Et puis ça se termine comme ça, Triple H a gagné, et le retour de Seth Rollins se finit dans les larmes. Qu'est-ce que t'as pensé de ce segment?
Moi, j'ai trouvé ça très très prenant émotionnellement. Hein. On s'attache énormément, personnellement, à ce Mick Foley tout pâteau, un peu triste, très sensible. Parce que bon, on va pas se mentir. Hein, sinon, on avait pu en virer un catcheur du roster. Il y en a un paquet. En plus, on en a vu ce soir entre Titus O'Neil et Jinder Mahal. Il y avait de quoi faire. Et j'ai cru qu'ils iraient au bout. Je me suis fait la réflexion d'ailleurs, c'est vrai que la WWE scénarise très très peu les catcheurs qui sont virés. Hein. Je me souviens de John Morrison qui avait été viré, donc enfin qui était en bout de contrat professionnellement, mais qui dans le scénario avait été viré par John Laurinaitis. Je pense que c'est la dernière fois qu'ils ont vraiment utilisé un vrai départ d'un catcheur pour l'écrire dans le scénario. Sinon ils le font plus trop, peut-être qu'il y a un peu trop de risques que le mec qui s'en aille joue pas le jeu. Après bon au final tout ça se finit un peu en autre boudin, il est censé en virer un, bon il vire Stéphanie mais il a même pas le pouvoir. Moi j'aurais bien aimé qu'il nous sorte un alinéa ou je ne sais quoi pour nous dire si en fait le GM a le droit de virer le commissionnaire, parce que sinon enfin j'imagine qu'on s'est tous dit de suite bah non il a pas le droit. Donc bon, cette stipulation finit assez vite, mais Mick Foley est assez bon. Triple H là, je l'ai rarement vu aussi détestable. T'as vraiment envie de lui péter le nez là, comment il parle à Mick Foley là en utilisant ses enfants et tout. Tu dis putain, mais qu'il est de là, tu fulminais avec lui, hein, quel gros connard.
Ah ouais, là, jusqu'au bout, il veut s'attirer la hit des fans parce que il est encore trop populaire Triple H, donc faut vraiment qu'il fasse des crasses extrêmes pour que les gens le détestent.
Ouais, il est fort et en plus je trouve qu'il pour les suiveurs un peu smart comme nous sommes, hein, son langage est très, Parce que quand il dit je construis les stars du futur, c'est pareil. Tu dis, bon, bah, tu vas acheter Samoa Joe, bon, bah, c'est pas faire preuve de d'une grande prise de risque. C'est pas.
Ouais, c'est encore un petit peu du troll, hein, de
Ouais, c'est ça.
raconter tout ça, hein, parce que, effectivement, c'est assécher les indies pour créer des nouvelles superstars, mais bon.
Ouais, donc il est bon, il est bon, et puis on sait pas trop au final ce que ça va donner avec Rollins, mais là c'est pareil, ils jouent vachement avec nos sentiments. Je sais pas si eux-mêmes savaient d'avance que Rollins serait opérationnel ou pas avant Mania, mais on a cru que c'était fini. Et puis là maintenant, bon, quand il a lâché la béquille, j'étais assez foufou, moi j'étais content, et puis après il se refait tabasser, donc ça se trouve c'était juste pour nous dire non, finalement il n'y a pas pouvoir, je ne sais pas.
Ouais. Alors moi j'ai bien aimé tout le début, toute la partie avec Mick Foley jusqu'à la sortie de Mister Socko. Alors ça j'ai trouvé ça très fort parce qu'on l'avait complètement oublié ce bon vieux Mister Socko. Et il réparait comme ça là quand on pousse à bout Mick Foley. Je trouvais ça pertinent, je trouvais ça efficace. Par contre, Seth Rollins qui revient, alors c'est cool, mais alors que ça se termine par Seth Rollins qui se retrouve à pleurer le genou cassé,
Ouais.
putain, c'est encore une fois pour moi, ils font une connerie parce que là, le moyen encore de rattraper le coup, le moment idéal pour en refaire le babyface de la compagnie face au Triple H qui avait là, je pense, réussi à se faire détester du public. Et non, il faut que ce soit Triple H qui gagne avec un beau moment là où il place une clé de jambe là, la réalisation qu'il sort toujours les grands comment les grandes prises de vue quand c'est Triple H qui est dans le ring, d'un seul coup le montage se fait plus méticuleux et du coup bah c'est Triple H qui sort grandi, je pense, de tout ça, et puis Seth Rollins qui passe encore pour un blaireau donc voilà, donc on sait toujours pas s'il sera là à Mania, mais
Bah, je pense que
pour moi, c'est encore un peu loupé, hein.
ouais, je pense qu'ils l'ont écrit en se disant au contraire, comme tu disais, que ça va faire encore plus de hit à Triple H, mais effectivement, là, ils auraient dû aller pousser le feel good moment jusqu'au bout, après ce qui s'est passé avec Mick Foley, Rollins Vengeur, et puis quitte à refaire un segment où Rollins se fait tabasser, Next Row.
Voilà, la semaine prochaine,
Ouais.
hop, dans un parking là, classico quoi. Là, c'est pour moi, c'est encore un acte manqué sur Rollins, mais bon, on verra bien, encore une fois. Bon, plutôt intéressant quand même pour terminer le show avec ce retour de Triple H, toujours très fort au micro. Il a failli être déstabilisé par le public à un moment donné, là, qui était à fond dans les chants CM Punk.
Il n'a pas réagi, ouais.
Ouais, il était. Voilà, c'était. Bon, il a quand même réussi à finir son speech, mais il y a eu un petit moment d'hésitation. Bon, écoute.
Il a cherché un petit mot ou une petite phrase pour les calmer, puis finalement, il s'est dit non, bon, je laisse pisser.
Voilà, on va jusqu'au bout du speech. On parle un peu plus fort. Mais bon, voilà, on voit qu'il est toujours aussi efficace, Triple H. C'était pas le. The game pour rien, le King of King pour rien, pas arrivé où il est pour rien. Voilà, bah du coup, voilà, c'est là-dessus que ça se termine l'émission, donc on va passer nous au mot de la fin, un top, un flop, une note. C'est parti, nous t'écoutons, Raphaël.
Eh bien, le top pour Chris Jericho et son segment backstage avec le retour de la liste qui était un peu tombée en désuétude ces derniers temps. Donc, c'est vraiment très bien qu'il le garde. Oh là là, des flops, il y en a quand même eu un paquet. Je vais dire, ben, la grosse connerie de tous ces heels qui font des comportements qui sont complètement anti à leur avantage, hein. Nia Jax qui grille sa chance pour un match pour le titre, le club qui se comporte comme des gros cons. Bon, ils sont bookés quand même comme des gros cons depuis un petit moment, mais là ça se confirme. Qu'il y a eu, oui, Charlotte qui se débarrasse de Dana Brooke alors que bon, elle en aurait bien besoin. Non, là je comprends pas là pourquoi ils sont tous aussi cons. Enfin, c'est pareil, le club. Qui fait en sorte de ne pas avoir de match à WrestleMania, mais qui râle. Tout le monde sait qu'il y a de bonnes chances que tu défendes ton titre à WrestleMania, mec. Non, c'est bizarre.
Et t'as une note à mettre là-dessus?
Oui, je mets 2 sur 5. Hein.
2 sur 5, une très mauvaise note, Raphaël. Ouais, bah oui, hein, c'était pas le meilleur show de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre nous dans le top? Qu'est-ce qu'on va... Bon, on va mettre les cruisers, tiens, cette semaine, c'est ce que c'était ce qui était le plus cool. Au niveau catch in ring, tiens, pour une... Ils l'auront pas volé cette semaine, les cruisers. Au Cinaris en particulier. Et puis dans le flop, c'est vrai qu'il y a du monde. Je vais l'attribuer au New Day, parce que c'est vraiment pas possible, quoi. Non, on va trop loin dans le mauvais goût. Et puis ça fait peur pour WrestleMania. Et j'aime pas avoir peur. La note, bah écoute, ouais, je vais mettre 2,25 en dessous de la moyenne, mais un petit peu plus que 2. Tu vois, parce que voilà, faut être. Je sais pas, en fait, pourquoi. Mais en tout cas, c'était pas un road terrible. C'est une road to WrestleMania qui patauge un petit peu dans la semoule. Du moins du côté de Monday Nitro. C'est un peu plus nerveux du côté de SmackDown Live. Et d'ailleurs, bah, vous pourrez écouter le supplément de Ketchup dédié au show bleu. Donc ça arrivera incessamment sous peu. Vous serez averti si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, ben c'est l'heure de vous abonner, hein. Je vous rappelle qu'on est pour les abonnements sur YouTube, la chaîne des Cahiers du Catch. On est sur iTunes, on est sur PodCloud, on est aussi sur Twitter, c'est Ketchup CDC, on est sur Facebook, c'est Ketchup CDC aussi. Venez sur le site les Cahiers du Catch, hein. Il y a des concours de pronos, vous pourrez lire les articles de Raphaël, donc notamment un truc sur les jolis textes sur les Hardys. Il y a aussi, on a aussi un résumé des derniers mois là, de l'Impact TNA. Si vous voulez pas vous emmerder à regarder la TNA.
Je sais pas si c'est le plus vendeur pour dire aux gens d'aller catch. Les articles de Warrior 31 sont très très bien, mais bon, ça
Ouais.
donne pas envie de regarder la TNA. Donc on va dire
Bah
que
ouais.
voilà, qu'avec ce Raw on est dans la merde. Enfin, on a vu de la merde, personnellement. Je n'ai pas peur d'utiliser le terme, mais que bon, a priori, c'est toujours moins pire que de regarder la TNA.
C'est ça, parce que putain, j'ai vu leur show là du renouveau, c'était bordélique à souhait, ça avait aucun sens. C'est pas si facile que ça de faire un show de catch apparemment. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, bah écoute, on a fait le tour de la question. Du coup, je te remercie d'être venu, hein, mon bon
Mais
Raphaël.
ce fut un plaisir. Alors j'espère que la prochaine fois que je reviendrai, les scénaristes de Stanford auront un peu plus sorti les doigts du cul. Mais je serai toujours là de toute façon pour les désinguer si besoin. Et
D'accord.
avec toi, c'est toujours un plaisir, Ringside.
Bah, écoute, plaisir partagé, Raphaël. Bon, bah voilà les gars, c'est fini, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, bah du coup, bah moi, je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao.
Au revoir.